nous essayons ensemble ici, bon, à une toute petite mesure, comme des petits grains de poussière de rien du tout, hein, de nous retrouver chez nous un peu, dans des moments au fond de liberté spirituelle. On n'a pas le droit d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être chrétien dans la famille. Soi-même, on n'a pas le droit d'être chrétien sous un certain rapport. On veut bien être chrétien, mais pas comme Dieu le veut. Appartenir à Jésus, au Verbe de Dieu, à l'Esprit Saint, mais pas comme le Père le demande. On n'est pas libre. Alors, on cherche des espaces de liberté spirituelle pour échapper à notre... Il y a des chaînes qui nous empêchent de rentrer dans cette liberté, cette mémoire de Dieu, cette liberté primordiale, parce que Dieu, le Père, crée des libertés primordiales. Et petit à petit, je ne sais pas pourquoi, on se laisse prendre et on a besoin de se retrouver ensemble dans des endroits où on est tous d'accord. C'est une espèce de d'accord qui est entre nous, qu'on est d'accord de rentrer dans cette liberté primordiale. Que on ne se laisse pas prendre par des mouvements qui nous empêchent de rentrer dans cette liberté primordiale. Bien sûr, d'accord, on apprend aussi par la même à rentrer dans la toute puissance d'humilité du Père. Parce que Dieu est substantiellement, éternellement, un effacement de lui-même. Dans la demeurance de Dieu, à l'intérieur de la maison de Dieu, à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de Dieu, on s'aperçoit que Dieu s'efface tout le temps. Comme tu cherches du vent très léger, très agréable, mais très infime, très imperceptible, tu sais que de le prendre, il échappe. Dieu s'efface, pourquoi? Parce que devant l'autre, il est un. Et il est ce souffle de disparition. Regardez, c'est extraordinaire de savoir ça. Que si nous avons été créés, c'est dans ce souffle de sa disparition dans l'engendrement d'un fils. Dans le souffle d'attraction véhémente du Saint-Esprit. C'est ce souffle qui disparaît dans ce que je suis. Il s'est effacé pour que j'existe. Et l'effacement de Dieu fait mon existence. Et mon effacement, lui, fait la gloire de Dieu. C'est cette liberté que je cherche. C'est cette liberté que nous venons chercher ici. C'est la liberté. Nous sommes tout à fait d'accord de ne pas avoir, d'être triste. Nous ne venons absolument pas ici avec de la tristesse. Pas du tout. Aucune tristesse. Hein? Ici, personne. Personne ne vient avec aucune espèce de mouvement d'inquiétude. Dès qu'il y a un mouvement d'inquiétude, c'est qu'il y a une tristesse. Si quelqu'un est inquiet, c'est parce qu'il est triste. S'il est triste, C'est parce qu'il a dit non au père. Il sait pas que son inquiétude vient de là. Et si nous venons ici, parce que nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord sur ce fait que c'est cette liberté spirituelle, c'est l'oraison de cette semaine à la messe, en toute liberté spirituelle. Cette liberté spirituelle, c'est une liberté qui est donnée à l'enfant de Dieu, à l'enfant du Père, à l'enfant. Petit à petit, cet enfant de Dieu devient un enfant de l'homme. Il faut 9 mois pour que l'enfant de Dieu, inscrit dans la chair, dans une liberté spirituelle totale, devienne un enfant de l'homme. 9 mois pour ça. Et c'est beau ça. Cette liberté spirituelle, le Père nous demande toujours de nous reprendre en lui pour être libre. Voilà. Et si on reprend à partir de notre tristesse, de nos inquiétudes, de nos péchés, pardonnés ou pas pardonnés, si on essaie de reprendre comme ça notre vie spirituelle en Dieu, nous sommes perdus. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. On n'aura jamais fini. Le péché est un abîme sans fond. Tandis que Dieu n'est pas un abîme sans fond. Dieu est absolument là. C'est même pas un abîme sans fond d'amour. L'abîme sans fond d'amour, c'est un schème imaginatif. Ce n'est pas Dieu. Dieu est là. Dieu est absolument là. Et c'est pas un abîme, puisque l'abîme, c'est l'infini. Tandis que Dieu s'est inscrit dans l'infiniment petit. Il est là. Très profondément, il est là. Dans les splendeurs de sa substance, il est là. Et c'est avec une allégresse, une innocence, une allégresse d'innocence, qui nous crée. Qu'est-ce qu'il est heureux d'exister. Dieu est tellement heureux d'exister. Et notre existence est à l'égal de celle de Dieu. Notre vie, non. Mais notre existence est à l'égal de celle de Dieu. C'est le même, comme dit saint Thomas d'Aquin, c'est le même essai. C'est pas la même vie. Dieu est là. Alors on est libre. On est libre dès qu'on retrouve cette odeur de la conception immaculée de Dieu. Dieu est une conception immaculée et cette conception immaculée est immaculée conception si je suis libre. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas libre n'aime pas l'immaculée conception. C'est pas qu'il l'aime pas, il ne la comprend pas. S'il ne s'est pas saisi lui-même, comment pourrait-il aimer Dieu et sa conception immaculée? Et s'il n'aime ni Dieu, ni sa conception, ni sa propre conception de sa liberté primordiale, comment pourra-t-il aimer l'immaculée conception qui est l'au-delà de l'unité des trois? Nous sommes d'accord. Évidemment, si vous faites ça dans une paroisse, en célébrant la messe dans une paroisse, ou à la télévision, sur KTO, ils sont tarés. Ça fume là-dedans. C'est vraiment fumeux, leur histoire-là. D'où est-ce qu'ils sortent de ça? On sort du silence, de la présence, de l'innocence éternelle de Dieu. Edgecourt, Dieu prend autorité, si je puis dire, prend autorité pour, sur son propre effacement, pour engendrer à l'intérieur cet effacement trinitaire des forces tridimensionnelles d'amour et de lumière à l'intérieur de ce qui est infiniment petit, dans la liberté divine elle-même. Cet effondrement de Dieu est la seule explication de Jésus crucifié. C'est la seule explication de la source de Jésus crucifié. La source de Jésus crucifié, c'est la conception immaculée devenue Immaculée Conception. Et il n'y a pas d'autre signification à la création de l'univers. Cherchez, il n'y en a pas d'autre. Alors, on peut peut-être être jugé comme étant ridicule, ou c'est pas. Personne ne dira d'ailleurs que c'est ridicule ce que nous disons là. Personne ne le dira jamais. Je crois pas. Mais on dira, c'est très spécial. On dira, c'est ça peut pas aller. Ça va. On dira qu'on n'a pas le temps. On dira qu'on a beaucoup de choses à dire. En bénédiction sur le prochain. T'es beaucoup trop occupé à dire des choses sur le prochain pour son bien, bien entendu. Plein de malédictions sur le prochain pour son bien. Et si vous voyez, on est libre. On cherche cette. C'est pas qu'on cherche, c'est que le Seigneur, on sait très bien, nous donne cette liberté. Mais à travers une fibre de laine, une fibre de soie, une couleur, un parfum, Dieu sort de là. Et puis, se manifeste à l'intérieur de lui-même. Hein. C'est extraordinaire, ça, n'empêche. Et par exemple, si un petit. J'aime bien ce que je suis. Vous voyez, il est beau. Hein? Vous avez le M de Marie. Le M de Marie, comme ça. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Belvoisin, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de Paris, la rue du Bac. Voilà, ça fait le M de Marie dans la France, les cinq apparitions reconnues. Avec tout le cœur des enfants de Dieu. Ce qu'appelait la Reine du Sacré-Cœur. Voilà. La personne qui a peint ça, c'est une peinture, hein. Une peinture, vous pouvez faire ça. Prenez un truc, elle a trouvé ça dans une poubelle. Ce truc-là. Trouvez ça dans une poubelle, vous voyez, il y a un trou là. Et puis elle a peint ça. C'est pas génial. Et alors, quand elle fait sa cuisine, je sais pas quoi, ou dans sa chambre, elle passe devant ça, et hop, la Sainte Vierge sort d'ici. Et vient lui parler, il dit, ah, c'est bien que tu m'aies peint comme ça, et puis il commence à lui parler, il dit plein de trucs. Puis après, l'autre vierge, puis l'autre tout lourde, puis après les petits saints qu'ils ont fait, ils viennent, ils sortent, ils parlent, et ils le caressent, ils disent, c'est trop bien que tu m'aies peint comme ça. Et puis il lui parle comme ça, c'est une peinture miraculeuse, ça je vous signale, c'est une peinture miraculeuse. Bon, elle est miraculeuse, c'est pas, on s'en fiche du miracle. C'est pas ça. C'est pour voir ce que ça signifie. Ça signifie que la moindre chose que nous faisons, Dieu peut sortir d'elle. Dieu sort d'elle. Dieu a besoin d'une émanation. Et nous aussi, nous avons besoin d'émaner à l'intérieur de Dieu à partir de la même émanation. C'est ça la liberté spirituelle. Cet aller-retour libre, tranquille, souverain, innocent, transparent. Transformant. Ouais, des petites choses de rien du tout. Une petite chose de rien du tout. Je vous vois les yeux, tu es là. Et j'ouvre les yeux, Dieu voit tout. C'est ça ce qu'on disait hier. Hein? Il n'y a plus aucune distance entre Dieu et nous. On n'a plus besoin de dire Seigneur, Seigneur. Que Jésus dit, arrêtez de dire Seigneur, Seigneur. Il n'y a plus aucune distance, je dis. C'est tellement extraordinaire d'être. C'est simple la prière. C'est ça. Quand un corps humain, une création parfaite, immaculée, chrétienne, c'est-à-dire elle est toute transverberée du Saint-Esprit. Elle est au-delà de l'unité avec le Saint-Esprit dans son entier, sa personne, sa aspiration passive. Ce souffle divin passe à travers tout ce qu'elle est, le moindre de ses actes de perfection. Et tous ses actes sont des actes de perfection. Voilà ce que c'est l'Immaculée Conception. Et si Dieu n'avait pas créé l'Immaculée Conception, il n'aurait rien créé. Parce que vous savez, c'est ce que dit Aristote, le vieux païen. Aristote, le vieux païen. Moi, j'aime bien Aristote, le vieux païen. Sauf qu'il est TPD. Non, ça, je sais pas trop. Bon. Dieu est son âme. Le vieux païen, il dit une chose qui était très très chouette. Mais Dieu est un acte pur. C'est l'acte pur. Vous savez que vous pouvez faire la démonstration grâce à Aristote de l'existence de l'acte pur, créateur de tout ce qui existe. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi pour savoir que Dieu existe, puisque j'ai fait moi-même, moi, le pauvre qui est ici devant vous, 5 fois j'ai fait la démonstration de l'existence de l'acte pur, par démonstration analogique synthétique. C'est assez raide, c'est très très délicat, c'est irréversible. La démonstration de l'existence de l'acte pur, créateur de tout ce qui existe, sans la foi, sans la révélation, rien. J'ai pas besoin de la foi, il suffit de ne pas être idiot. Oresco referas, idiotus, malignus, incipiens in corde so dixit non est deus. C'est celui qui dit que Dieu n'existe pas, c'est celui qui est tellement idiot, qui n'a même pas respiré dans le moindre premier bon sens de son intelligence native. Alors c'est un homme stupide et insipide. Ah, moi, je crois que Dieu existe. Imbécile. C'est ce que c'est. C'est un professeur de métaphysique. Il y a certaines personnes qui disent, moi, je crois que Dieu existe. Imbécile. Idiotus. Incipiens. Incipiens. Insipide. Pas intéressant. Il n'a même pas d'intelligence humaine. C'est terrible de voir des hommes que Dieu crée dans l'intelligence et la lumière et qui ont perdu, qui n'ont pas fait une seule fois l'expérience de leur intelligence dans l'intellect agent. Alors ils tournent autour d'eux-mêmes psychiquement. Ah, qu'est-ce que je suis triste. Ravi d'une thérapie. Grand-mère. Et Aristote, il fait la démonstration de l'existence de Dieu. Mais quand il fait la démonstration de l'existence de Dieu, il touche en même temps, dans substantiellement, la substance de ce qu'il contemple dans cette démonstration. Il est emporté, comme Plotin, comme le. Il n'y a pas qu'Aristote. Et ces prophètes, ces Grecs, vous voyez, il faut qu'on prenne conscience quelquefois quand même qu'en l'an 2000, l'humanité est tombée très bas dans la déchéance de l'intelligence et du cœur. Très, très, très bas. Je crois qu'on n'est jamais descendu aussi bas depuis 3000 ans. Une grégarité. C'est insipide, c'est idiot. Cet idiotisme généralisé, ce psychisme, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais quand tu vois l'Immaculée Conception, quand tu la vois en direct, comment peux-tu douter une seule seconde qu'elle soit Immaculée Conception? Mais si je la vois pas, c'est différent. Je me vois même pas moi-même. Comment peux-tu voir l'autre? Alors tu vis en fonction de tes manques. Et ce qui te fait agir, c'est tes manques. Malheureux homme que je suis, forcément, quand je vis en fonction de sa liberté, sa puissance spirituelle de vie contemplative, sa lumière, cette capacité de se donner dans l'échange de l'accueil du don, bien au-delà de l'unité de tout, d'amour, dans un amour pur, et de se retrouver soi-même dans cette liberté primordiale, dans l'accomplissement de cette liberté, au-delà du temps. Bien sûr qu'Aristote va dire, si Dieu crée, Dieu est un acte pur. Donc le terme de la créateur de Dieu dans l'existence de ce que je suis est forcément, nécessairement parfait. Parce que si l'acte de Dieu n'est pas parfait dans son fruit, lui qui est l'acte pur, c'est que Dieu n'existe pas. Alors j'écoutais dans la voiture une émission sur France Culture. Je crois qu'ils sont tombés dans l'idiotisme le plus substantiel. La France Culture, c'est France Culture. La culture de la sonnerie. De la souillonnade. Ah non, mais pas incroyable. Alors, ils ont sorti des bouquins. Ah oui, alors, ils discutaient. Il y a 3 bouquins qui sont sortis sur Dieu, etc. La création, machin, truc. Et la somme générale, je crois que ça fait 20 ans que je n'ai pas entendu une somme de sonneries aussi énorme accumulée en l'espace d'un quart d'heure. Je crois que je ne sais pas. Et alors, ça gargarisait, tatitatatata. Ah oui, alors évidemment, on a la culture occidentale, que Dieu a créé, oui, mais puisque Dieu a créé, christianisme, soi-disant. Ah, la bonne femme, un docteur en philosophie, tout ça, bien sûr. Dans la culture occidentale, tout faux. Hein. Puisque Dieu a créé, ben forcément, il n'y a plus rien à rajouter, puisque le monde est parfait, donc il n'y a rien à faire. Voilà, son bouquin. Tout le monde constate que le monde n'est pas parfait. Regardez autour de vous, le monde n'est pas parfait. Regardez-vous de l'extérieur. Vous verrez que vous n'êtes pas parfait. Et si tu avais créé un monde parfait, il n'y a plus d'amour. Puis tout est parfait, donc tout s'arrête. Plus rien à faire. C'est de l'amour. Il crée une puissance, il crée une potentialité, une capacité de réciprocité, d'égal à égal avec lui. Sans aucune distance. Alors le monde n'est pas parfait, alléluia. Mais si il a créé Aristote, Plotin, et vous, s'il a créé, forcément, la créateur de Dieu est parfait dans son fruit. Si l'Immaculée Conception n'existe pas, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. C'est très simple. Et elle est la source éternelle et dans l'instant présent dans le temps et dans l'éternité, de Dieu lui-même, dans le Verbe de Dieu. Et si ça, c'est pas vrai, c'est que Dieu n'existe pas. Or, alors, et ça, je suis en train de faire, oui, de la philosophie. On a le droit de prendre l'Immaculée Conception en philosophie. La philosophie, c'est une réflexion humaine, hein. C'est pas de la théologie, c'est pas à partir de la foi. C'est tout simplement humain. Si l'Immaculée Conception n'existe pas, c'est impossible. Ça veut dire que la démonstration d'Aristote est totalement fausse. Et je veux vous dire, moi, en tant que métaphysicien, que la démonstration de l'existence de l'acte pur d'Aristote, créateur de tout ce qui existe, n'est pas fausse. Je ne peux pas faire la démonstration à votre place, mais je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Et ce n'est pas parce qu'on le sait que du coup on devient parfait. Je le sais, mais je ne suis pas parfait. Et donc on a un espace de liberté pour. On sait qu'ici, nous, librement, on ne se gêne pas pour dire voilà, l'amour est un amour victimal de l'union hypostatique déchirée de Jésus. Et l'Immaculée Conception est la source de l'au-delà de la Jérusalem céleste parfaitement accomplie. Les trois blancheurs en un. Hein. Les trois blancheurs en un. Ce que je viens de dire, c'est les trois blancheurs en un. Que c'est ça qui fait que nous sommes catholiques. C'est l'amour éternellement victimal de l'union hypostatique de Jésus. Ça, c'est l'hostie. Oui, c'est, donc c'est l'hostie, ça. Hein, l'amour éternellement victimal, l'amour victimal éternel du Verbe de l'union hypostatique de Jésus, c'est l'hostie. C'est le Verbe hostie. C'est la conception immaculée de Dieu. Il est conception éternelle de Dieu, mais dès qu'il est hostie, il est conception immaculée. Et ça, c'est ce qui fait justement cette inscription, je veux dire, cet amour éternellement victimal de l'union hypostatique de Jésus, et dans l'au-delà de la Jérusalem céleste, accomplie, voilà pour Marie. Parce que Marie est plus que la gloire de la résurrection. Bien plus. Parce que la gloire de la résurrection est quelque chose de créé. Et elle est la source, mère de Dieu. Et donc elle est l'ouverture à l'au-delà de la gloire de la résurrection. Parce que la gloire de la résurrection est quelque chose de créé. Avant la mort de Jésus, il n'y a pas de gloire de la résurrection. La gloire de la résurrection est quelque chose de créé. Et Dieu n'est pas créé. Et il faut une médiation entre le monde accompli de la Jérusalem céleste et son au-delà. Sinon, il n'y a pas de passage. Comme dit saint Thomas d'Aquin, comme dit le Concile, comme dit les apôtres, comme dit le Pito Corinthien. Il ne peut pas y avoir de passage, sinon, entre la gloire de la résurrection et la très sainte Trinité. Et entre la très sainte Trinité et la gloire de la résurrection, il faut une médiation, il faut une porte. C'est cette union hypostatique des chérés de Jésus. Et c'est au-delà de la Jérusalem céleste, voilà pour Marie. Et c'est ça qui fait le mystère de l'Église, voilà pour la troisième blancheur. La doctrine infaillible de l'Église. La lumière. La lumière. Du Saint-Père. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça, de comprendre ça. Ici, on est libre de rentrer librement et à fond dans l'au-delà de l'unité des trois blancheurs. Pour retrouver notre liberté primordiale à l'intérieur de la très sainte Trinité, redescendre et respirer, que ce soit Dieu qui respire à travers nous. On est là pour ça, parce que, quelque part, on est là aussi pour comprendre, je suis d'accord, parce que c'est pas tout de dire une chose, c'est aussi important de le comprendre. Parce que pourquoi, vous voyez, on n'est pas calviniste, on n'est pas luthérien, on n'est pas swingliste, on n'est pas à dire, tu crois, puis c'est tout. Ne comprends pas, cherche pas à comprendre. Tu crois et puis basta. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est croire, c'est vouloir voir. Voir, c'est vouloir croire. Croire, c'est vouloir comprendre. Comprendre, c'est vouloir contempler. Contempler, c'est toucher. Toucher, c'est assimiler. Assimiler, c'est en vivre. En vivre, c'est être transformé. Être transformé, c'est être accompli. Être accompli, c'est être assumé. Être assumé, c'est être au-delà de la Jérusalem d'en haut. Parce que quand le Père s'efface, et que toute la Jérusalem céleste s'efface, elle, à son tour à travers nous, dans l'effacement du Père, alors il y a pour nous, dès cette terre, la très sainte Trinité. Oh, ça a l'air bien compliqué, ce que vous me dites là. C'est bien trop compliqué, ça. C'est pas compliqué. C'est compliqué parce que tu ne sais pas, tu n'as jamais expérimenté toi-même ce que c'est qu'un effacement dans l'humilité substantielle de toi-même. Celui qui ne connaît pas l'humilité substantielle dans l'effacement de soi-même ne comprend pas ça. Il faut pour ça une chasteté parfaite, une humilité substantielle. Alors, c'est l'assomption d'amour qui nous prend très au-delà de ce que nous sommes nous-mêmes à l'extérieur de nous-mêmes, pour rentrer à l'intérieur des profondeurs de Dieu que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, évidemment, on va dire... Vous voyez, je pensais une chose tout à l'heure... Il nous arrive quelques difficultés terribles. C'est quand même affreux ce qui m'arrive là en ce moment. Mon Dieu, c'est terrible. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourtant, j'ai tout fait. Tout. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation. Donc, j'ai tout fait. Pourquoi est-ce que mon Dieu me fait tout ça? Alléluia! Parce que t'es idiot. Et pourquoi est-ce que les gens ont l'air exaspérés à chaque fois que je leur parle si gentiment? Parce que tu es idiot. Et un être humain ne supporte pas l'idiotie. Pourquoi? Parce que nous avons été créés dans la lumière. Alors, je dis, mais il m'arrive des choses terribles, affreux. C'est fou. C'est vrai, on a égorgé mes enfants sous mes yeux. Voilà, tout. Enfin, je ne fais pas la description, un truc fou. Voilà. Etc. Bon, voilà. Ok, bon, très bien. Et puis, mon préféré, là, on l'a égorgé vif sous mes yeux. Et puis, en plus, le bon Dieu m'a demandé que ce soit moi que j'y participe. Que ce soit moi qui fasse tout pour qu'il y aille. Cette cruauté invraisemblable, sous mes yeux et tout, c'est trop dur quand même. Marie, c'est ça? Elle a livré son fils. Tout ce que Judas a fait, tout ce que Ponce Pilate a fait, tout ce que les Français, les Gaulois ont fait en le flagellant, tout ce que ces hordes de sauvages, de barbares ont fait là, en lui tirant la langue dans les clous, les excréments dans la bouche, tout ce que je n'ose même pas vous écrire. C'est Marie qui l'a fait. Marie l'a livré pour ça. Avec un océan de lumière, de gratitude, de louange, d'offrande et de paix céleste et divine, un déluge insondable. Elle a fait ça. Elle a livré son fils. Parce que c'est la volonté du Père. Mais comment, pourquoi est-ce qu'elle a pu faire ça en étant debout? Comment est-ce qu'elle a pu faire ça en étant debout? Stabat Matar. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Dans l'unanimité, la persévérance, continuellement. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça si elle n'avait pas été d'abord Immaculée Conception et attirée par le Père. Et elle-même entièrement effacée avec la création tout entière à travers elle dans l'effacement du Père pour que Saint-Esprit fasse l'opération sublime de la rédemption dans son Fils. Et quand elle s'opère, alors c'est la paix éternelle de Dieu, tandis que sur la terre, l'idiotie est écrasée. Et son centre de gravité est dans la très sainte Trinité, évidemment. Sinon, c'est pas possible. Elle serait... Elle dit, mais lisez la Bible, mon père. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Oui. Si quelque personne pouvait en douter, je dis, j'aurais très bien pu n'avoir pu pas lire la Bible, hein. Mais si quelqu'un devait... Bah, il se trouve que je l'ai lu. Éphésiens, chapitre 3, versets 6, 9 et 12. Au fur et à mesure, vous lirez, c'est extraordinaire, l'épître aux Éphésiens. C'est là où Marie a vécu ces 19 dernières années. Saint Paul a dit des choses extraordinaires. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le Christ Jésus, mort et ressuscité pour nous, les anges découvrent les mystères. Les anges découvrent les mystères au fur et à mesure que nous avançons vers l'accomplissement de la Jérusalem de la terre. Dans l'accomplissement de la Jérusalem céleste, au fur et à mesure, les anges, mais les anges n'appartiennent pas au temps. Rendez compte, c'est inouï ça, cette parole, Éphésiens chapitre 3, versets 6, 7 et 8. Les anges, mais quand vous savez ce que c'est que des anges, oh, ils apprennent petit à petit, à travers la toute petitesse de notre petitesse, de rien du tout, dans l'immaculée conception de notre communion, les dépassements de notre communion avec elle, et elle-même effacée dans la conception immaculée, transformée en spontanéité éternelle et ancrée, inspiration au souffle éternel de la très sainte Trinité. Ce triple mouvement de lumière et d'amour qui se saisit dans l'infiniment petit de notre Eucharistie, de notre création, dans les trois blancheurs, c'est là où nous sommes créés et que nous existons par la crête de Dieu. À l'état parfait. Ce n'est pas dans nos cellules souches adultes ou embryonnaires qu'on est parfait, mais dans le corps spirituel. Et celui-ci, il émane de l'Immaculée Conception. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Enfin, même si vous le vouliez, c'est comme ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est génial. Les anges, eux, ils ont été créés avant l'existence du temps. Vous le saviez, ça? Les anges ont été créés par Dieu. Ce sont des créatures spirituelles pures. Elles ont été créées avant l'existence de la matière. Avant l'existence... Attention, je vais vous dire une petite remarque. C'est une parenthèse, ça n'a rien à voir. Même Aristote dit ça. Donc pas besoin d'avoir la foi pour le savoir, n'est-ce pas? Très bien, je ferme la parenthèse. Pas besoin d'avoir la foi ni la Bible pour savoir que l'ange est créé avant l'existence du temps. C'est un esprit pur. Et il y en a un. C'est pas juste trois. Hein. Oh là là! Et alors, je ne sais pas, regardez par exemple la différence qu'il y a d'un ange à un autre. Par exemple, la différence, vous vous direz, comme le Père Patrick, c'est drôlement différent. C'est vraiment, hein, tu ne peux pas faire plus différent que le Père Patrick et Josiane. C'est effrayant la différence qu'il y a entre les deux. Eh bien, figurez-vous que non. Nous sommes de la même espèce. Idem in numero. Comme dit Saint Thomas, idem in numero. On est pareil. C'est très humiliant pour Josiane. Oui, mais... On est les mêmes que Néron. Idem in numéro. Les mêmes que Hitler. Les mêmes. Idem in numéro. On est de la même espèce. Tandis que d'un ange à un autre ange, il y a une différence d'espèce. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, regardez la différence qu'il y a entre une petite violette. Toute petite violette. Je respire, c'est pas violette, c'est petite violette, c'est rien du tout. Et son parfum, et là-bas, la galaxie qui fait des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'étoiles qui ressemble comme ça à une espèce de fleur de lumière de gloire qui est là-bas de l'autre côté. Là, et la différence encore entre ça et la splendeur de la lumière d'un sourire. D'un attribut divin à l'intérieur du monde spirituel pur. Ça fait une sacrée différence de là à là à là. D'un ange à un autre ange, c'est exactement ce genre de différence. Mais beaucoup plus, puisque c'est une différence d'espèce. Et il y en a des milliards, et des milliards, et des milliards. Et il n'y en a pas un soit l'égal de l'autre en dignité. Chacun est supérieur à l'autre. Des milliards et des milliards et des milliards de fois. Et ces anges-là, une fois qu'ils sont créés par Dieu, ils ont en plus de leur espèce, de leur esprit, de leur intériorité lumineuse, contemplative, pure, une agilité, une subtilité, une présence à Dieu qui est un espace intérieur, si vous voulez, qui est sans aucune limite. Et moi, quand je vais dans mon cœur, je dis, Seigneur, il n'y a aucune distance entre toi et moi, c'est là. Dieu est là, absolument. Tandis que l'ange, c'est sans limite. Sans limite. Sans limite. Il n'y a pas de limite. Aucune limite. Pour chaque ange. D'un seul coup, Dieu ayant créé tous les anges, comme l'explique Moïse dans le livre de la Genèse et de la Torah. Vous trouvez ça dans le Tanakh, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Dieu dit, il va créer la matière. Et pour ça, il dit, donc le Verbe, s'associe la potentialité soit. Aujourd'hui, si vous permettez, puisqu'on est dans un espace de liberté totale, nous appelons ça le Taquion. Parce que on traduit en chinois. Quand aujourd'hui les gens sont chinois, eh bien on traduit en chinois. Taquion. Incipiens. Dixit, Cordes, Onanes, Deus, alors qu'est-ce que vous voulez? Oresco reference. C'est horrible. Je me réfère à la science. Le tachyon est avant la lumière. Einstein, dégagé. La découverte de septembre 2011, la révolution copernicienne de la pensée. On n'en parle pas à France Culture. Hein. C'est plus parce que tout ce qu'ils ont dit pendant 50 ans, c'est tout faux, quoi. Embêtant. Voilà, vous voyez, bien donc, Dieu crée la matière. Mais cette matière qui, avant, elle est coincée entre la création angélique, le Verbe de Dieu qui fait l'unité du monde angélique, si je puis dire, va se saisir, se concentrer dans ce qu'il y a de plus petit, l'infiniment petit du tachyon. Et le tachyon, c'est pas un tachyon, bien sûr, au début, mais le Verbe de Dieu s'associe hypostatiquement à la matière, c'est-à-dire toutes les possibilités d'inscription dans l'infiniment petit de l'amour éternel de Dieu, qui est absolument immensément grand dans les anges. Oh là 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 là! Oh, que ça me plaît, ça! Oh, que je trouve ça bien! L'union hypostatique de Jésus! Le tachyon a cette particularité, cette propriété. En risque de référence, c'est-à-dire, je réfère donc à la science moderne, de traverser tous les temps, tous les lieux. Pas plus vite que la vitesse de la lumière. Mais c'est quoi la matière ? C'est pour ça que... Si on veut vraiment comprendre avec l'exactitude des mots et tout ça, et du verbe, de l'expression infaillible, renversable de la vérité tout entière, alors à ce moment-là, oui, c'est vrai, on est obligé de prendre des mots qu'on n'est pas habitué d'entendre, parce qu'on est tombé donc dans l'idiotisme généralisé, mais ça, ça fait rien, on s'en fiche, on peut reprendre l'intelligence des enfants quand même, avec les mots de la substance des choses. Et à ce moment-là, on voit, oui, la matière primordiale, ce n'est pas une matière qui se balade comme ça. Vous n'avez jamais vu une matière se balader. La matière, puis à chaque fois que vous voyez de la matière, hein, par exemple ici, voilà, une bonne matière, elle a une forme, si petite qu'elle soit. Vous ne verrez jamais se balader une matière sans forme. Et dès qu'une matière a une forme, c'est qu'elle est dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu, ayant créé le monde angélique, se saisit une matière sans forme. Il en est lui-même la forme. Le Verbe de Dieu va devenir la forme de toutes les possibilités de la matière. De toutes les possibilités des formes de la création. Dans l'infiniment petit de la matière. Et c'est ça l'union hypostatique de Dieu. Avant d'être l'union hypostatique du Christ, dans le Verbe de Dieu, il y a l'union hypostatique de Dieu avec la matière. Et là, là, oui, c'est vrai, il y a eu ce partage du monde angélique en deux. Impressionnant. Impressionnant, vraiment impressionnant. Vous savez, la matière, j'ai pas envie de vous faire un cours de philosophie, de métaphysique, mais la matière... Sans forme, c'est une capacité concrète à être pris par quelque chose de l'intérieur de la matière pour former une réalité naturelle telle que nous les voyons. Mais toutes les formes par lesquelles la lumière de Dieu se rend présente, l'amour de Dieu peut se rendre présent, tous les amours possibles à l'intérieur de l'infiniment petit de la matière, à travers la matière, à travers des réalités créées. Il y a comme une espèce de matière préalable qui peut être formée de l'intérieur de la Créateur de Dieu, c'est dans l'union hypostatique primordiale. C'est ça ce qu'on appelle le Bereshit dans la Bible. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ou et Haaretz. Bereshit. Il y a le Saint des Saints immédiatement. Le corps primordial, c'est la matière. Dans l'union hypostatique créatrice de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très fort pour nous, de savoir, de comprendre ça, que nous sommes inscrits dans l'union hypostatique. Mais nous savons, nous aussi, maintenant, je passe à la foi maintenant, jusqu'à maintenant, c'était de la philosophie. Je sais aussi par la foi, je peux le faire par la philosophie aussi. Mais nous, je préfère les raccourcis. Voilà. Parce que la foi, je sais que dans l'union des trois, je rejoins l'accomplissement de ce principe primordial de perfection, eh bien, oui, je disais donc que, par la foi, je peux dire une chose, c'est que l'union hypostatique de Jésus vient de l'Immaculée Conception. C'est impressionnant. Quand vous lisez Luther, par exemple, Martin Luther, moi, je l'aime bien, Martin Luther. Idem numéro avec moi. Il était gros. Il sentait mauvais. Il était moine. Il était prêtre. Et il était borné. Kif, kif. La seule chose que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pas pris sœur Anne, qui s'était consacrée pour sa majesté, dans mon lit. C'est tout. Ça fait une petite différence quand même. Mais moi, je ne me serais pas dévoué, parce qu'elle était moche aussi. Bon. Non, mais c'est vrai, écoutez. Quand vous êtes... Oui, bien sûr. Voilà, il a fondé le christianisme à partir de la Bible, tout ça. À partir de la Bible, vu à travers son obscénité, tout ça. Évidemment, je comprends qu'il ait terminé sa vie comme Judas. Il s'est pendu. Mais moi, je suis désolé. C'est Jésus que je veux suivre et les apôtres. C'est pas Judas. Et Luther ne supporte pas Marie. C'est les apôtres que je suis, c'est Saint Jean. Toute l'Apocalypse, c'est Marie. Puis si tu ne vois pas ce que c'est que la responsabilité virginale et immaculée dans son accomplissement, tu ne comprends rien à l'Apocalypse. C'est quand même la clé de voûte de toute la Bible, c'est le dernier livre. L'Immaculée Conception, elle est dans l'union hypostatique déchirée de Jésus. C'est là que Dieu l'a créée. Regardez, dans l'union hypostatique de Jésus déchiré, ça c'est le dogme, c'est la doctrine infaillible de l'Église qui dit ça. Nous aussi, c'est génial, parce que grâce à l'Immaculée Conception, je découvre où ma conception est immaculée et parfaite, comme le dit l'épître que nous a lu hier. Je crois que c'est aux Corinthiens. C'est aux Éphésiens. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, son humanité, la matière qu'il a assumée dans son union hypostatique, son humanité est partie. La lumière vivante, la forme vivante de sa grâce capitale, la source de toute vie divine et surnaturelle en lui, est partie, elle a quitté son corps cadavérique, son corps est devenu une matière inerte. Il est revenu à l'état de son union hypostatique primordiale. Et tous les éléments de la matière de son corps trouvent l'unité dans cette union hypostatique primordiale. Oui ou non? Et donc, la créateur de Dieu se trouve là. Si tu n'as pas compris ça, ça veut dire que tu n'as pas compris que Jésus, c'est Dieu lui-même. Et à raison de quoi? Ben, du coup, dans cette blessure du cœur, tu ne te trouves plus en Jésus. Tu te retrouves dans le Verbe de Dieu, dans l'en-deçà de son union hypostatique primordiale. Et donc c'est là que se trouve le lieu de ma création. Où le Verbe illumine tout homme à l'instant où il existe dans ce monde. Sinon, comment pouvez-vous lire le prologue de l'évangile de Saint Jean? Hein? Alors le Père est là, oui c'est vrai, quand on s'inscrit à la manière de l'au-delà de la Jérusalem céleste, dans la lumière infaillible et accomplie de la foi, dans sa plénitude reçue de l'Église tout entière à l'accomplissement des temps après la résurrection, juste faisant l'instant de la résurrection finale de la création tout entière. Bref, les trois blancheurs, lorsque je vis ça et que je suis englouti dans les grandes profondeurs de cette existence, dans la lumière, que je la vois, que je la touche, je touche ma liberté primordiale. Je vois l'état dans lequel j'étais 9 mois avant ma naissance. Je retrouve cet état qui fait que je suis ce que je suis. Ça a duré longtemps quand même. Ça n'a pas duré qu'un seul instant. Ça a duré longtemps. Je me suis habitué à être ce que je suis. J'aime ce que je suis. J'aime Dieu, j'aime les autres. J'aime la perfection accomplie de la Créateur de Dieu dans l'accomplissement de tout ce qu'il est, de tout ce qu'ils sont dans l'unité. Je l'aime parce que c'est trop. Et j'y acquiesce, et c'est librement que je le fais, que je m'y engloutis pour y contribuer à ma part, pour le faire surabonder sans arrêt tous les jours de ma vie. Et quand je me retrouve dans l'union hypostatique déchirée de Jésus, avec la plénitude de la Jérusalem céleste accomplie dans l'Immaculée Conception, réalisant l'Eucharistie incréée du Père, s'effaçant dans l'inspiration passive du Saint-Esprit, je m'excuse, mais à ce moment-là, j'ai trouvé la porte de la vraie vie. Je suis catholique. Essayez de trouver ça dans Luther. Vous ne trouverez pas. Essayez de trouver ça dans Santa Sai Baba. Une fois qu'on a touché l'Immaculée Conception, dans la doctrine infaillible de la Jérusalem spirituelle de la terre en son accomplissement, de la Jérusalem spirituelle. Quand on rentre dans la blessure du cœur de Jésus, l'union hypostatique des chers, une fois qu'il est mort, quand on rentre dans ce grand sabbat, cette immense transformation, hein, dis au Père, je suis à l'intérieur de l'éternité divine, de l'intériorité intime du Père qui m'attire, qui s'efface. Où je m'efface et où je découvre l'intériorité de ce qui est intérieur à l'intériorité intériorisante du Père. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Et alors à ce moment-là, je vais vivre de ça. Je suis libre de vivre de ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Père ne peut faire voir, ne remet l'accomplissement de toutes choses en cette perfection que à ceux qui ont la foi immaculée, toute pure, toute simple, dans la plénitude reçue de l'accomplissement de l'Église. Et ça, c'est l'Immaculée Conception dans son accomplissement, l'Assomption. Elle est assumée au moment où Jésus est mort sur la croix. Elle est assumée dans sa conception, dans l'accomplissement de tout. Elle devient la mère de l'au-delà de tous les accomplissements, l'épouse de la responsabilité incréée de Dieu. Ça, ça me plaît, ça. Et donc, on est englouti, comme dit Saint Jean de la Croix, engolfé. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours bien aimé ce mot engolfé. Engolfé. Il y a des espèces qui regardent comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? C'est les espèces angéliques. Dans leur espace sans limite. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont devoir s'engolfer à leur tour dans l'infiniment petit de la transsubstantiation eucharistique reçue pour pénétrer et voir dans la lumière les forces tridimensionnelles d'amour et de lumière de l'au-delà de l'accomplissement de la Jérusalem céleste où ils sont eux-mêmes la partie créée spirituelle pure et angélique pour aller au-delà d'elle. Vous voyez ça, c'est extraordinaire pour réaliser l'unité et le passage libre entre la Jérusalem céleste et la lumière, la lumen glorie dans laquelle il voit le Père face à face. Mais que c'est ce mouvement libre. Il faut pour ça une découverte de l'intelligence des tout-petits. Éphésiens, il n'était pas bête, Saint Paul. Hein, c'était pas le dernier des imbéciles. Les anges apprennent. Du Christ. Alors qu'ils sont, ils sont quand même dans la vision béatifique. Avant la création du monde, ils sont, ben, aussitôt qu'ils disent oui, tout de suite, ils sont dans la lumen gloriae, hein, les anges. Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, Ultima Verbi, je sais pas, Hyménée, tout ce que vous voulez, tous vos anges gardiens, Raquel, tout ça. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste, puisqu'on y est encore dans 3 siècles. Hein. Parce qu'il faudrait à chaque fois faire la description en plus. Alors là, on y est encore dans des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de siècles. C'est extraordinaire. Ben voilà, oui, ben oui. Voilà, c'est ces anges-là qui découvrent. mystère de Dieu à travers la foi. Elle est la reine des anges. Nous aussi, hein. Parce que dès qu'on dit que Marie est la reine des anges, dès qu'on dit que Marie est l'Immaculée Conception, si on est des membres vivants, du corps mystique vivant de l'Église, de la Jérusalem vivante, hein, donc on est l'expression de l'émanation de l'Immaculée Conception. Elle est à l'état primordial, si vous voulez, c'est normal, parce que, enfin, quand je dis c'est normal, c'est Dieu qui l'a choisi pour ça, mais en même temps, c'est elle qui a choisi, elle a acquiescé. C'est libre. Notre existence créatrice est libre. Nous inscrivons librement, lucidement, parfaitement lucidement, dans ces premiers jours, ces toutes premières semaines de la Créateur de Dieu sur nous. Une lucidité parfaite. Et elle a dit oui, beaucoup plus que nous. Et Dieu savait qu'il y en aurait une qui dirait oui. Il a attendu. Elle aurait pu dire non, ou dire oui avec un tout petit truc de moins. Tac, terminé. Alors il aurait fallu attendre Josiane. Ça aurait été un peu gros. Seulement voilà, nous avons laissé échapper notre annonciation aussi. Mais dans elle, nous la retrouvons, cette annonciation à laquelle nous avons échappé. Nous avons laissé échapper notre innocence divine originelle. Mais avec elle, nous retrouvons notre innocence divine acquiescente dans l'accomplissement d'une perfection parfaite de notre propre liberté. Avec elle, nous engendrons, nous voyons engendrer en elle l'union hypostatique de Jésus dont elle est la marque. Parce qu'ayant dit oui, elle a été assumée. Et elle a fait son pèlerinage dans l'au-delà des cieux, à l'intérieur de la première personne de la très sainte Trinité, par l'opération, comme l'explique l'ange Gabriel, par l'opération super veniet inte spiritus sanctus, du dedans inte supervenu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, ombration du Père. Elle a fait son pèlerinage non pas dans le sein de sa mère, mais elle a fait le pèlerinage dans le sein du Père. Dans la très sainte Trinité. C'est là qu'est le pèlerinage de l'Immaculée Conception. Parce qu'elle a dit oui. Nous n'avons pas dit oui. On aurait pu dire oui. On a dit oui, attends, aujourd'hui, je ne me rappelle plus comment j'ai fait pour dire non. Ah. C'est pas grave. Puisqu'il y a l'union hypostatique de Dieu et de Jésus. Il y a l'Immaculée Conception de Dieu. Il y a le Père. Il y a l'Esprit Saint. Donc tu le retrouves. Tu retrouves à l'état pur ce oui que tu n'as pas dit. C'est le tien. Il n'y a aucune distance. Moi, ça me plaît, ça. Et c'est vrai, c'est quelque chose de très évident en même temps, de très facile. De s'enfoncer en disant oui. Pourquoi ? Parce que le lieu de la liberté spirituelle, c'est le lieu du oui. Le lieu de l'esclavage, c'est le non. L'analyse. Hegel. Kant, l'esprit critique. Critique de la raison pratique. La dialectique, mais non. Non, comme ça tu verras mieux ce qui reste après. Mais non, il n'y a qu'à prendre la liberté terrestre. Laisse-moi libre de chercher comme je veux. Sartre, toutes les expressions, voyez, de l'athéisme militant. Ne me blesse pas, tu me blesses là, tu m'empêches de grandir. Freud. Enfin, dragon à sept têtes. Tâche à l'engendrement de la femme. La femme est en train d'engendrer. Alors, telle est cette idéologie d'aujourd'hui. On est imbibé, hein, complètement, de la racine, puis ça sommet de la tête. Imbibé. Vous vous rendez compte, si vous assistez là, sous vos yeux, à un attentat, on a égorgé tous les enfants de la maternelle, vous étiez la maîtresse d'école, vous êtes encore là, vous étiez au cabinet, vous sortez là, vous voyez tout ça. Vous avez un peu le temps de vous sécher. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement?
Cellule de crise.
Cellule de crise. Ah oui. Sans rigoler. Je vous assure, c'est ça. Cellule de crise. Psychotrope. L'autre jour, c'est une petite que j'aime bien qui est venue chez moi avec Gladys, Gaëtan, enfin peu importe. Et alors bon, ça faisait un an et demi parce qu'elle était trop mystique. Alors ses parents l'avaient fait enfermer, trop mystique. Ils trouvaient que c'était un peu dingue quand même de vouloir prier pour que toute la ville de Toulouse se convertisse. Bon, très bien. J'ai dit, tu sais, tu ne devrais pas le dire. Tu fais-le, mais ne le dis pas. Mais bon. Enfin, elle avait dit à son père l'a fait enfermer. Alors, Prozac, Zoloft, je vous dis pas si vous connaissez les médicaments, il y a la haute dose, hein, pendant un an et demi. Je trouve que c'est surpayé pour vouloir prier pour Toulouse. Hein. C'est pas vrai, c'est surpayé, quoi. Alors, elle est arrivée, à l'Ermitage, elle a été prise en charge, jour et nuit, elle était avec. Alors, tous ces médicaments, bien sûr. C'est incroyable, cette histoire. Alors, évidemment, elle est arrivée en disant, Père Patrick, parce que bon, elle dort hein, jusqu'à midi, hein. Impossible autrement. Hein. On se réveille, et puis après-midi, on se réveille. Alors, vous savez, les lèvres qui sont grosses, ça bave un peu le reste du temps où on est éveillé. Et après, on se couche. Et le médecin, il dit quoi? Elle va mieux. Et dans sa tête, pendant qu'elle était éveillée, des pensées de suicide continuelles. Elle va mieux. Alors je dis, ma chérie, tu fais ce que tu veux, mais plus rien, pas un seul médicament. Là, sous mes yeux, tu arrêtes. D'habitude, vous savez, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, je faisais partie d'une communauté qui était super, une petite groupe de jeunes qui avaient les fleurs dans les cheveux, comme ça. On fait des films aujourd'hui là-dessus. C'était pas des films, c'était vrai. Les cheveux comme ça, on était ensemble. Et on accueillait comme ça des gens qui étaient dans la défense, qui étaient partis dans 5000 ans là dessus. Sevrage tout de suite, immédiat. Donc j'ai l'habitude, vous inquiétez pas, j'ai pas fait ça au hasard. Je sais comment on fait pour le sevrage. Bon, bref, toujours est-il que peu importe. Cette petite, elle dit, bon, écoute, moi, tu fais ce que tu veux, mais je dis, regarde, je l'ai quand même fait lire l'épidémiologie sur le Prozac, le machin, voilà. 90% des gens qui se suicident en France, des hommes qui se suicident en France, prennent ces médicaments. Alors, c'est à cause de tes pensées ou c'est à cause du médicament? 90%. Hein? J'en dirai pas plus parce qu'après, on va me... Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Il y a des personnes qui les prennent et qui ne se suicident pas parce qu'il y en a...
Je dis, j'ai pas dit ça, je dis, d'après les statistiques officielles, 90% des hommes qui se suicident en France prennent ces médicaments.
Il y a l'autre aspect.
Peu importe, c'est pas ça. Donc, je lui fais lire ça, je lui dis, écoute, c'est peut-être pas, ça vient pas de toi. Toi, je t'ai connu, tu les prenais pas, t'as jamais eu ce genre de truc. Très bien, ça fait 6 ans que je la connaissais. Donc, c'est un. Depuis que tu les prends, ça vient pas de toi. C'est pas de toi, t'as envie de vivre. Elle était jolie, en plus quand elle était jeune. Elle était jolie, jolie, jolie. Et alors, mais nuit et jour, on était avec elle. Dans ce cas-là, il faut une proximité physique, alors t'es tout le temps collé à elle, quoi. Hein, elle est Gladys, machin, truc. T'es collé continuellement. Arrêtez. Le lendemain, c'est elle qui réveillait Gladys pour venir à la prière de la nuit. C'est elle qui réveillait Gladys pour aller à la presse du matin. C'est elle qui était. Elle était redevenue jolie. Et du coup, le brave petit jeune qui était avec moi, il tombait amoureux d'elle. La poupa.
Elle va être obligée d'être heureuse.
Non, mais c'est pour ça. Et pas une seule moindre trace de pensée de suicide. Immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il y a la prière. Pourquoi ? Parce qu'il y a la proximité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune distance. C'est pas parce qu'on arrête. C'est parce qu'il y a la vie normale, un espace de liberté. On échappe à la gueule du dragon. Vous voyez ça ? On est quand même libre de vivre. Alors bien sûr, après, bon, on n'a pas pu la garder longtemps. Elle est partie, elle s'est retrouvée avec un médecin que je connais très bien. Il a dit, il est fou, Patrick, il est fou, vite, il faut reprendre. Et il l'a ramenée à l'hôpital, elle a repris les médicaments, elle sera... Ça, c'est pas moi, c'est autre chose. Elle a su que c'était possible et que c'était... Elle le sait, voilà. C'est un avantage. Mais c'est curieux, cette espèce de main. Ouais. On n'est pas dans un monde libre. On n'est pas dans un monde libre, voyez. Maintenant, je crois qu'elle a compris, et donc elle ne reprend plus, elle a compris. Mais dans un deuxième temps, elle a repris, parce que c'était, on l'a obligée. Donc, mais après, maintenant, elle a compris, elle est revenue sur elle-même, elle a compris. Mais peu importe, ce n'est pas ça, c'est pas pour dire ça, on est... Vous voyez, je me rappelle, quand j'ai eu des périodes dans ma vie de moine. Il y a eu des périodes comme ça. J'étais avec le père Emmanuel. Oh là là, ça, c'était pas un cadeau. Je n'ai pas... Bon, très bien. Et après, j'ai été dans les gorges du Verdon. Et puis après, j'ai été à... Bon, je fais des raccourcis. Après, j'ai été dans Notre-Dame de Domanova, dans les Pyrénées. Puis maintenant, je suis avec les sangliers d'Auvergne. Bon. J'ai toujours été avec les sangliers. D'ailleurs, quand j'étais en théologie à Fribourg, avec les Suisses, avec les BCBG de France qui venaient là-bas faire leur métaphysique, ils disaient, oh là là, Patrick, oh là là, oh là là, il y en a quelques-uns qui me voyaient là. Ils disaient, oh là là, Patrick, quand on te voit avec tous ces étudiants, on a l'impression de voir un sanglier sauvage au milieu de porcelaine fragile. J'ai toujours été un peu sanglier. Ça n'a rien à voir. Il y a eu des périodes comme ça, on est allé, bon, très bien. Voilà, c'est des périodes de lutte, des grandes périodes de lutte, des périodes de transformation, de découverte du monde nouveau, période de lutte. Et maintenant, on est rentré dans la période des catacombes. Le monde est contre nous. Alors il faut ces espaces de liberté. Mais il faut trouver aussi, nous, à l'intérieur de nous, le lieu, ce point de liberté intérieure, ce point de silence pacifique, ce point en nous de silence pacifique primordial qui s'accomplit. Parce que dès que je trouve en moi le point pacifique de silence pacifique, de profusion pacifique primordiale, aussitôt, si je vois qu'il n'y a aucune distance entre ce moment-là avec Dieu, qu'il n'y a plus de prière possible puisque la prière est accomplie. Il n'y a plus de prière possible puisque la prière est accomplie. Alors, il ne me reste plus qu'à me laisser emporter l'accomplissement de ce silence primordial accompli. L'océan pacifique sans limite. Et il devient, je suis assumé dans les profondeurs. Et ça, c'est l'espace de liberté, c'est ça que nous cherchons. Si c'est pour ça qu'on est rentré vraiment dans les grandes catacombes du méchôme. On le sait, tous ceux qui sont ici savent qu'on est rentré dans les grandes catacombes du méchôme. Jésus a dit, à partir du moment où vous verrez le Shikutsim, Meshomem, que l'ange Gabriel a annoncé au prophète Daniel, de ce jour-là s'inscrira dans la terre, dans l'univers, un Meshom, tel tel qu'il n'y en a jamais eu depuis la fondation du monde jusqu'à ce jour-là, tel qu'il n'y en aura jamais plus de ce jour-là jusqu'à la fin du monde. Le méchant, c'est de l'hébreu, c'est le comble de la désolation métaphysique, l'inversion du sens universel et immédiat du bien. Nous sommes dans ce temps. Et donc il faut ces espaces tranquilles, eucharistiques, immaculés, pour pénétrer, toucher l'accomplissement de la Jérusalem céleste. Et obtenir du coup d'être emporté à l'intérieur de la Très Sainte Trinité, pour que de l'intérieur de la Très Sainte Trinité, le Père engendre un Verbe de l'intérieur de lui-même, qui à travers nous s'incarne dans l'Immaculée Conception, pour créer le cinquième sceau de l'Apocalypse. À partir d'en haut, la liberté qui est la nôtre, c'est la liberté du Père, où il n'y a plus de liberté du tout. C'est ça le méchaume. Et ceux qui ne vivent pas explicitement, presque exclusivement de ça, parce que ça exige évidemment la mobilisation de toute notre capitale de liberté primordiale. Ah. Parce que quand on s'efface, il n'y a plus rien. Donc si on est encore occupé à autre chose, qu'on a encore une inquiétude. Bon, ici, personne n'a aucune espèce d'inquiétude. C'est ça qui est bien. Donc quand je parle des autres, les autres, quelquefois, ont des inquiétudes. Mais ici, bien sûr que non. Ce mouvement de l'inquiétude qui montre la tristesse qu'on n'est pas libre. C'est vrai, le monde est triste à en mourir. Donc si je m'inscris en disant, mais je voudrais vivre un peu, j'ai le droit de vivre dans ce monde, je voudrais faire, j'ai le droit à la vie. À la vie de quoi ? La vie de quoi ? Horesco référence. Attends. Donc tout ça pour dire une chose. C'est que peut-être, je ne sais pas si je pourrais vous faire un petit cours de métaphysique. Mais il faut être sûr de ceci. C'est que Dieu nous a créés. Et que cette création est indépendante de notre possibilité de faire un acte de réflexion, d'analyse, de compréhension. La première cellule de notre vie, le Saint des Saints, notre liberté primordiale, est une liberté de lucidité parfaite. Mais ce n'est pas dans un mental des cellules. Comme dit Sri Aurobindo. Mais Ralph a ça. De la grande psychologie, des énéagrammes. Il n'y a pas de mental des cellules. Le mental des cellules n'existe pas. Il n'y a pas de mental. Le mental exprime l'existence déjà dans l'organisation de la matière d'un intellect possible. Il n'y a pas d'intellect possible dans le génome. Il y a seulement l'exercice de dépassement de la matière, de la memoria dei primordiale dans l'intériorité de lumière, dans l'intellect d'agent. Et donc je suis parfaitement lucide et libre. Et mon intériorité, donc mon âme, pendant les 40 premiers jours de mon existence, a une intériorité qui a la vastitude, non pas angélique, mais la vastitude de l'absolu, enfin de la présence lumineuse et amoureuse, de toute puissante et toute silencieuse. Et tout effacé de la Créateur de Dieu dans tout ce qui existe. Et je suis lucide là-dessus. Avant que n'apparaisse l'intellectuel possible, les cellules nerveuses du cerveau. Je n'ai pas besoin du cerveau pour être intelligent. Qu'est-ce que ça me fait plaisir d'entendre ça ? J'ai besoin du cerveau pour analyser, pour trouver les mots justes, pour trouver l'acte juste de sa contemplation juste, pour en produire la surabondance juste dans la lumière. J'ai besoin du cerveau, là oui. Le cerveau, l'intellect possible, c'est quelque chose de très 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 grand, c'est vrai. Mais il n'est seulement là qu'en puissance. Il est en acte premier, il n'est pas dans son acte second d'adulte. Il est en acte premier. Et comme dit Aristote, le passage de l'acte premier à l'acte second n'est pas le passage de la puissance à l'acte, mais de l'acte premier à l'acte second. De l'intellect qui a proté. C'est l'intellect qui a l'acte de l'intelligence. Mais cet acte premier est un acte d'intelligence de l'intellect agent. C'est par cette porte, d'ailleurs, que rentre l'intelligence sans limite du monde angélique, et non pas par l'intelligence cérébrale, pour rentrer dans l'âme des mystères qui se réalisent dans l'Église grâce à la foi héroïque des fils de Dieu sur la terre, au jour du cinquième sceau de l'Apocalypse. Et nous sommes dans les jours du cinquième sceau de l'Apocalypse. Et cette lumière, c'est une lumière qui nous est personnelle. C'est mon intelligence, c'est ma lucidité. Elle est lumineuse. Elle pénètre, comme dit saint Hildegard, toutes les énergies de la paternité créatrice de Dieu. Elle recèle en elle la lumière de sa connaissance primordiale. Voilà ce que je suis. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois. Et je le vois en permanence dans une espèce de science infuse. Nous l'avons encore, cela. Dans le sein des seins de notre corps originel. Mais ce n'est pas le mental des cellules. Le mental des cellules, c'est une espèce de transposition. Ouais. De transfert. De transfert de notre état métapsychique d'aujourd'hui dans la première cellule dans laquelle nous étions au début, lorsque nous n'étions pas justement dans le mental. C'est une espèce d'inversion diabolique. Et cet intellect agent n'est pas seul. Il y a l'amour. Il y a cette puissance d'amour. Parce que la première cellule primordiale est une cellule vivante, c'est de la matière vivante formée. Dans une mémoire, une capacité presque sans limite, réceptive, comme dit Saint-Hildegard de Bingen, proclamée dimanche dernier, dimanche 10 jours, au bout de 8 siècles, docteur de l'Église. Elle dit, voilà, puissance de l'homme dans la main de Dieu à travers le corps est un récepteur. Capable de transformer les énergies créatrices de Dieu et de le diffuser dans l'éternité. Saint Hildegard. Je ne savais pas qu'elle avait dit ça. J'ai entendu ça sur mon répondeur. Je ne savais pas moi qu'elle avait dit ça là. Mais ça me plaît, ça! Docteur de l'Église, vous comprenez pourquoi elle n'est pas docteur de l'Église avant qu'on ait découvert le corps primordial? Avant qu'il y ait la demande de pardon pour le Shikutsi Meshomem? C'est génial, hein, quand on y pense. Tout dépend de nous. Tout. Dieu a tout mis entre les mains de l'homme, saint Hildegard. Dieu a tout mis dans les mains de l'homme, dans les énergies de sa foi toute pure. En recevant en lui l'unité de la création tout entière, il donne aux forces divines de quoi se déployer dans l'éternité. Voilà pourquoi l'homme, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ah, maintenant que les docteurs de l'Église, vous pouvez lire Saint-Hildegard. La vision de Saint-Hildegard, l'explication de Saint-Hildegard. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Soyez bénis.